Peu d'hommes politiques savent mieux que lui se mettre en avant sur la scène mondiale. Peu de gens polarisent et divisent autant les esprits que lui. Donald Trump, président des États-Unis de 2017 à 2021 et candidat républicain à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Selon l'Institut germano-américain de Tübingen, cette élection ressemble à un choix du destin, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la communauté mondiale. Donald Trump, salué par certains comme le nouveau Messie qui assèche le marais, craint par d'autres comme un destructeur de démocratie et un propagateur de haine, n'est pour d'autres encore que le jouet des puissants dont il fait avancer l'agenda mondial. Qui est Donald Trump et quel rôle joue-t-il dans les affaires mondiales? Cette émission vise à apporter des réponses à ces questions, en commençant par une analyse de l'attentat présumé à l'arme à feu du 13 juillet 2024. L'attentat doit servir d'illustration car il ne fait qu'exacerber la polarisation politique autour de Trump. C'est surtout la question à qui profite la tentative d'assassinat de Trump qui doit permettre d'en savoir plus sur le rôle de Trump. Commençons par l'attentat contre Trump le 13 juillet 2024. Lors d'un meeting de campagne pour l'élection présidentielle de 2024, un assassin aurait tenté de tuer Donald Trump avec un fusil à pompe. Des vidéos montrent Trump tournant la tête sur le côté juste avant le tir pour lire sur le prompteur. Selon Trump, ce mouvement de tête lui aurait sauvé la vie. Trump aurait été touché à l'oreille par l'un des nombreux tirs. Un spectateur est mort d'une balle et deux autres ont été grièvement blessés. Peu de temps après, l'auteur présumé de la tentative d'assassinat a été tué par un tireur d'élite des services secrets. Les analyses du déroulement des faits ont montré des incohérences, parfois flagrantes, et ont soulevé de nombreuses questions. Cela a donné lieu à des spéculations et laisse beaucoup de choses dans le flou. On ne peut même pas répondre avec une certitude absolue à la question de savoir si et dans quelle mesure il s'agissait d'une mise en scène. Selon différentes expertises, le sang sur l'oreille de Trump pourrait également être du faux sang. On trouvera ci-dessous quelques-unes des nombreuses incohérences et bizarreries.
Incohérences et bizarreries.
Le FBI a identifié le tireur. Il s'agirait de Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans. Même les médias à sensation l'ont qualifié de piètre tireur. Quelle est la probabilité qu'il ait tué Trump avec un fusil à pompe enregistré au nom de son père à une distance d'environ 120 mètres si celui-ci n'avait pas tourné la tête? Il convient également de mentionner une vidéo montrant Crooks jouant le rôle d'un figurant non rémunéré dans un spot publicitaire de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Avant même le coup de feu, des partisans de Trump avaient repéré l'assassin et informé les forces de sécurité. Un policier serait alors monté sur le toit. Lorsque Crooks a pointé son arme sur lui, il serait redescendu. Comment est-il possible que Trump ait pu commencer son discours malgré le danger imminent? Et pourquoi les tireurs d'élite du Secret Service n'ont-ils pris Crooks pour cible qu'au moment où celui-ci aurait déjà tiré sur Trump? Une vidéo montrant Donald Trump se touchant l'oreille juste après qu'un sniper des services secrets a sursauté comme s'il venait de tirer. Cependant, selon les explications officielles, les coups de feu ont d'abord été tirés sur Trump. Puis, le sniper a tiré et tué l'assassin. Se pourrait-il que le sniper ait tiré quelque part pour faire croire qu'on avait tiré sur Trump à ce moment-là? Les analyses sonores des enregistrements vidéo ont révélé que, du point de vue de la qualité de son, au moins 4 tireurs différents avaient dû tirer. Donc, en plus de Crooks et des services secrets, il y avait d'autres tireurs. Officiellement, il ne s'agissait toutefois que d'un seul assassin. Dix témoins oculaires avaient confirmé que quelqu'un se trouvait sur le château d'eau au moment où des coups de feu ont été tirés. Une vidéo montre une silhouette sur le château d'eau se déplaçant d'avant en arrière pendant les tirs. une analyse de la ligne où des coups de feu réels ont été tirés et où un homme a été tué conclut que les tirs n'ont pas pu provenir de l'emplacement de Crooks. Trump a rapporté lors de la convention du parti, 2 jours après l'attentat, que sa main était pleine de sang. Cependant, les vidéos ne montrent pas de sang sur sa main. Une série de photos de Trump, le poing levé, prise par le photographe de la paix et lauréat du prix Pulitzer Evan Vucci, juste après l'attentat, a rapidement été diffusée dans le monde entier. L'auteur et expert financier allemand Ernst Wolf a résumé la situation de la manière suivante.
Et que Trump se soit levé comme ça et immédiatement levé le poing en l'air et que les images soient apparues avec le drapeau américain en arrière-plan, je dois dire qu'aucun réalisateur n'aurait pu mieux le mettre en scène. J'ai des doutes sur toutes les versions qui circulent. Donc la seule chose que je sais, c'est que tout cela sent en quelque sorte l'incident produit, c'est-à-dire une mise en scène.
Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses bizarreries sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Mais la question se pose de savoir pourquoi les médias dits de qualité n'explorent pas des explications plausibles. Au lieu de cela, ils ne savent rien faire de mieux que de rejeter immédiatement toute tentative d'explication comme étant une théorie du complot. Les incohérences frappantes pourraient-elles faire partie d'un plan visant à semer la confusion, à susciter des controverses et à détourner l'attention de l'essentiel avec des détails qui font perdre du temps? Cela doit être pris en compte dans la suite de l'analyse. Pour aller plus loin dans la mise en lumière de qui pourrait être derrière tout cela, nous allons nous pencher sur la question suivante. À qui profite la tentative d'assassinat sur Trump?
À qui profite l'assassinat de Trump? Il sert en premier lieu la campagne électorale de Donald Trump.
Les coups de feu ont été tirés 2 jours avant le début de la convention d'investiture du Parti républicain, lors de laquelle Trump a été réélu candidat à la présidence des Républicains. Ernst Wolf a déclaré à ce sujet.
Et je sais que tout cela profite en tout cas avant tout de manière superficielle à la campagne électorale de Donald Trump. Il est considéré comme un saint dans le Midwest en ce moment. Il a survécu à cela. Dieu a donc la main sur lui. Et il a fait preuve d'une force incroyable car il s'est tout de suite relevé et a immédiatement levé la main. Il est considéré comme un héros dans le Sud. Et cela lui apportera certainement de très nombreux votes.
Pour Julius Van Delaar, conseiller international en campagne et stratégie, l'élection présidentielle est quasiment jouée. Les images de Trump tendant le poing après l'attentat et s'adressant à son public disant « Fight, 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 battez-vous, battez-vous, battez-vous » sont un moment iconique et probablement décisif pour les élections, dit Van Delaar. Si Trump est élu en novembre, c'est à ce moment qu'il est devenu président, selon le conseiller.
Il sert ceux qui veulent présenter Trump comme sauveur.
Les évangéliques américains et autres partisans de Trump ne laissent aucun doute sur le fait que de véritables coups de feu ont dû être tirés sur Trump. La main protectrice de Dieu était sur lui, a par exemple dit le président de l'influente association évangélique Billy Graham. L'attentat manqué a permis à certains milieux religieux d'acclamer Trump comme un martyr et un messie. Le rabbin Isser Zalman Weisberg, qui travaille notamment comme écrivain pour le Chabad Lubavitch Media Center, donne une analyse religieuse à l'attentat contre Trump. Dans un message vidéo du 24 juillet 2024, il a expliqué
« L'oreille droite du candidat à la présidence Trump a été blessée comme geste symbolique selon Exode 21, verset 6. Il est dit qu'un serviteur qui veut rester avec son maître doit se faire percer l'oreille droite. » Trump a été désigné comme le serviteur et loin de Dieu, tout comme Cyrus le Grand il y a près de 2400 ans.
Weisberg poursuit en expliquant que l'échéance finale pour la rédemption sera le 2 octobre 2027, soit pendant le mandat de Donald Trump. Il a de bonnes raisons de croire que Donald Trump a été choisi pour offrir son aide à la reconstruction du Saint-Temple de Jérusalem et à l'instauration du royaume juif sur le monde entier. Le journaliste britannique David Icke commente les explications du rabbin Weisberg sur les réseaux sociaux X. Citation. Certains qualifieraient cela de folie. D'autres diraient que c'est exactement le plan. Et vous ?
Il sert à ceux qui veulent renforcer l'appareil de sécurité, c'est-à-dire la surveillance.
Ernst Wolf a déclaré à ce sujet.
Tout le monde est donc soudainement d'accord. Nous devons en tout cas empêcher de tels incidents. Et qu'est-ce que cela signifie ? La sécurité doit être renforcée. Nous devons nous réarmer en interne, c'est-à-dire à l'intérieur. Cela signifie donc que nous devons renforcer l'armée, nous devons renforcer la police. Et tout cela ne m'étonne pas, bien sûr, quand on a un agenda en arrière-plan qui ne va pas du tout plaire aux gens. Et je pense que si Trump arrive au pouvoir, il y aura très vite un très mauvais réveil pour de très nombreux Américains. Et il faut bien sûr s'y préparer. Il faut donc équiper correctement tout l'appareil de sécurité. Et c'est bien sûr à cela que servent des événements comme cet attentat. Car l'appel à plus de sécurité va en tout cas résonner très fort en Amérique maintenant.
Il sert de diversion à ceux qui veulent introduire la monnaie numérico-financière.
Ernst Wolf.
Il est toujours important de savoir qui en profite en arrière-plan. Et en arrière-plan, c'est le complexe numérico-financier qui en profite en ce moment. Car justement, ces derniers jours, tous les regards sont à nouveau tournés vers cet attentat. Tous les gens sont ainsi pratiquement conditionnés à croire que la politique est si importante. Plus personne ne regarde le système financier. Plus personne ne regarde ce qui se passe dans l'économie. Et là, on peut bien sûr manipuler, préparer en ce moment et faire tout ce qui est possible pour continuer à faire avancer le grand agenda en arrière-plan. Et le grand agenda en arrière-plan n'est rien d'autre que l'introduction de la monnaie numérique de la Banque centrale.
Il sert à ceux qui veulent diviser la société par le chaos pour faire avancer leur agenda selon le principe divisé pour mieux régner. Ernst Wolf a déclaré à ce sujet.
Parce que donc l'économie des États-Unis est sous pression, le système financier est sous pression. On attend juste que BlackRock donne son feu vert à un moment donné, que le système financier s'effondre et qu'on nous propose alors la nouvelle monnaie, les CBDC, la monnaie numérique de banque centrale. Et pour que tout cela se passe, il faut premièrement diviser incroyablement les gens. C'est à cela que sert cet attentat. Et deuxièmement, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Et avec J.D. Vance, c'est bien sûr un représentant du complexe numérico-financier qui a été placé directement dans l'un des postes de commande du pouvoir politique.
Il est indéniable que cette tentative d'assassinat ratée a encore aggravé la polarisation politique aux États-Unis. Le retrait du président sortant Joe Biden, 8 jours après l'attentat contre Trump et la nomination de Kamala Harris, ont véritablement relancé la campagne électorale. Un coude à coude très disputé se profile à l'horizon. L'attaque de Trump, qu'elle soit orchestrée ou non, ressemble à de l'huile jetée sur le feu, et pas seulement entre démocrates et républicains aux États-Unis. Les avis sur l'attentat de Trump divergent également entre la droite et la gauche dans le monde entier, et même dans les milieux du dévoilement. Est-ce simplement dans la nature des choses ? Est-ce une coïncidence ou est-ce un calcul délibéré ? Le fait qu'il pourrait très bien s'agir d'un calcul délibéré ressort de la stratégie politico-sociologique divide et impera du latin diviser pour mieux régner, pratiquée depuis des siècles. L'un des ennemis divise le groupe à vaincre en sous-groupes. Ces sous-groupes se combattent mutuellement au lieu de s'unir contre l'ennemi commun. C'est ainsi qu'un ennemi parvient à établir son agenda et sa domination. Et c'est précisément ce phénomène que des lanceurs d'alerte renommés observent dans la politique mondiale actuelle. Voici une sélection de ces voix.
Interview d'Ernst Wolf sur l'attentat de Trump.
C'est exactement comme aux États-Unis. Il y a Biden d'un côté, il y a Trump de l'autre. Chez nous, il y a d'un côté M. Scholz, M. Abeck et Mme Baerbock. De l'autre, il y a l'AFD. Tout le monde joue un grand jeu.
David Icke, dans sa conférence à la 20e AZK, Relations entre la tyrannie mondiale et ses ruses de guerre.
Vous voyez, c'est la grande arnaque. En politique, il y a la gauche contre la droite. Et en arrière-plan, ils sont tous amis. Je veux dire, certains d'entre eux peuvent vraiment être en désaccord. Mais beaucoup d'entre eux, les personnes clés, sont des amis. Donc, ce que nous voyons en termes de politique, gauche et droite, c'est du théâtre. C'est du théâtre de divertissement, non ? Mais cela doit nous permettre de continuer à croire au système politique et, en votant tous les 4 ou 5 ans, à croire que nous avons en quelque sorte le contrôle sur qui dirige le gouvernement. Mais dans ce jeu de marionnettes où il y a la gauche et la droite, si on fait un pas en arrière dans l'ombre, on voit que les deux sont contrôlés par les mêmes mains. C'est pourquoi peu importe qui est au pouvoir, gauche ou droite, le même agenda pour l'humanité se manifeste. Cette secte mondiale ne connaît pas de frontières nationales. Elle n'existe que pour l'exploitation de la population. Elle veut vous faire croire qu'il y a différents pays avec des objectifs différents. Or, ce n'est pas le cas. Il existe une secte mondiale qui agit à travers tous les pays.
Revenons maintenant à Donald Trump et à l'élection présidentielle américaine de 2024. Est-ce vraiment la vérité que tout cela s'apparente à un jeu de marionnettes et que finalement, peu importe qui sera élu 47e président des États-Unis ? Whitney Webb, journaliste d'investigation américaine de renom, avertit avec force que les républicains et les démocrates sont influencés par les mêmes puissants oligarques et plaide pour une remise en question critique du système politique. Elle souligne que les vrais gagnants de la prochaine élection ne sont pas les citoyens, mais les puissants milliardaires qui veulent continuer à développer l'état de surveillance. Sur la plateforme américaine Unlimited Hangout, Whitney Webb révèle qui finance les campagnes électorales de Trump. La figure centrale est l'investisseur tech, fondateur de PayPal et de Palantir, Peter Thiel, soutenu par ses collègues. Il finance la campagne de Trump à hauteur d'au moins 45 millions de dollars. Et d'ajouter que le candidat de Trump à la vice-présidence, J.D. Vance, est en quelque sorte le fils adoptif de Thiel. Whitney Webb explique également que les démocrates sont soutenus par l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, plutôt que par Thiel. Schmidt et Thiel sont tous deux coprésidents de l'influent club Bilderberg. En bref, le groupe Bilderberg peut être considéré comme le bras politique et économique mondialiste des puissants. La Fondation Rockefeller, la CIA et le Council on Foreign Relations ont participé à sa mise en place. Comme CLA TV l'a expliqué dans plusieurs émissions, leur agenda comprend l'effort incessant pour construire un gouvernement mondial tout-puissant. Cela doit être réalisé à l'aide de l'introduction de la monnaie numérique de la Banque centrale, d'un système de surveillance et d'exclusion, d'une politique de vaccination avec des vaccins à ARNm, d'une politique de raquettes climatiques et à l'aide du complexe militaro-industriel. Que ce soit Donald Trump, Joe Biden ou Kamala Harris, que ce soit les républicains ou les démocrates, c'est toujours le même agenda mondial qui doit être mis en avant. Dans un article du 29 juillet 2024, la journaliste indépendante Kathleen Johnstone, spécialisée dans la politique américaine, a expliqué comment les démocrates et les républicains s'attaquent constamment les uns les autres pour des positions de politique étrangère qu'ils ne défendent pas en réalité. L'objectif est de donner l'impression d'avoir des divergences d'opinion importantes en matière de politique étrangère. Trump a ainsi déclaré à propos de Harris qu'elle n'aime pas Israël. En réalité, elle est mariée à un homme juif et il est prouvé qu'elle rampe devant le lobby israélien et a fait une déclaration qualifiant de terroristes les manifestants anti-génocide qui sont contre le discours de Netanyahou. D'un autre côté, les démocrates accusent depuis des années Trump d'être un ami de la Russie et de Vladimir Poutine. Mais en réalité, Trump a passé tout son mandat à travailler contre les intérêts de Moscou. Il a lancé l'armement de l'Ukraine, déchiré les traités nucléaires, introduit sanctions sur sanctions contre la Russie, bombardé et occupé la Syrie, et bien d'autres choses encore. En réalité, tant les démocrates que les républicains sont plus ou moins d'accord sur toutes les questions importantes de politique étrangère, selon Caitlin Johnstone. Trump s'est polarisé comme personne. On ne peut pas non plus prendre pour argent comptant sa déclaration selon laquelle il mettrait rapidement fin à la guerre en Ukraine en cas de second mandat. Le journaliste américain Ben Norton, spécialisé en géopolitique, a démontré dans un documentaire de 55 minutes comment Trump, quand il était président, était en réalité un belliciste. La vidéo donne un aperçu du soutien de Trump à Israël et à l'Ukraine, ainsi que de sa politique agressive envers la Chine, la Russie, la Palestine, l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Yémen, la Bolivie, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. On pourrait dire exactement la même chose de n'importe quel président démocrate, que ce soit Barack Obama, Joe Biden ou Kamala Harris. Caitlin Johnstone compare les différences superficielles entre républicains et les démocrates au bijoutier de la nouvelle de John Steinbeck, La Perle. Bien qu'ils travaillent tous pour le même employeur, ils font en sorte de créer l'illusion d'une concurrence. De la même manière, la lutte entre les différents partis n'est qu'une lutte fictive visant à créer l'illusion de la démocratie. Ce jeu de dupes permet aux quelques aspirants au pouvoir et aux obsédés de la domination mondiale de faire avancer leur agenda en passant par-dessus des électeurs divisés. Ce sont des événements comme l'attentat contre Trump qui alimentent le fossé entre les différents camps. C'est pourquoi, en fin de compte, il importe peu de savoir si et dans quelle mesure il s'agissait d'une mise en scène. Il faudrait plutôt unir nos forces au lieu de nous déchirer sur des détails pour dévoiler et stopper les plans des accros au contrôle du monde. Participez-vous à la mise en échec de ces projets en diffusant cette émission? Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous recommandons la conférence donnée par David Icke lors de la 20e AZK sur le thème « Relations entre la tyrannie mondiale et ses ruses de guerre ». Dans l'interview, il met en évidence le problème du principe divisé pour mieux régner. Selon lui, c'est une infime fraction des 8 milliards d'habitants de la planète qui crée ce scénario d'horreur globale. 8 milliards de personnes ne peuvent pas être contrôlées. Ces quelques tireurs de ficelles créent donc différents partis et systèmes de croyances afin de pouvoir diviser et dominer les 8 milliards. Dans cette conférence de 75 minutes, vous découvrirez également la solution proposée par David Icke.